Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre fidélité et je suis heureux, autant qu'inquiet, de vous retrouver. D'autant plus heureux et d'autant plus inquiet que cette année est la dernière et que la dernière de mon enseignement, enfin, pour le reste c'est entre les mains de Dieu, et que le poids des années, les déficiences de l'âge, s'ajoutant à celle de la nature, de la mienne, je crains que cette année soit celle de trop. Mais enfin, j'avais, selon ma mauvaise habitude, laissé le cours de l'an dernier en suspens, et il me faut bien l'achever. Alors, je suis désolé, l'auditoire est réparti entre deux salles. L'amphithéâtre Marguerite de Navarre est occupé par une vedette de la maison. Et alors, du coup, c'est un peu compliqué. Je n'utiliserai pas de PowerPoint pour cette séance. D'ailleurs, je l'utilise de toute façon si maladroitement que ce n'est pas bien grave. Des photocopies, il y a un texte plus long qui circule. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Vous verrez que ce n'est pas très grave. Je lirai, je commenterai. Tout ça, c'est pour montrer que je fais ça sérieusement. Et c'est un texte, de toute façon, d'abord inconvenant, donc je ne devrais pas le faire circuler, et en plus, qui n'est pas une illustration si essentielle du propos. Cela dit, je commence. Le cours de l'année dernière, « Parler aux simples gens, un art littéraire médiéval », avait un projet identifiable et circonscrit. Le point de départ était simple. Contrairement à d'autres civilisations où la langue savante, même si elle n'est plus parlée couramment, reste pendant des siècles, et quelquefois toujours, la seule langue de la culture écrite, donc situation de l'arabe, situation de l'Inde, situation de la Chine, situation du Vietnam, situation, etc. Contrairement à cette situation, les langues vernaculaires de l'Occident médiéval ont été très tôt écrites, et même quand on regarde à l'échelle du monde, anormalement tôt écrites utilisées comme langue littéraire. Et elles ont vu très vite leur littérature se développer à côté des lettres latines et bientôt les concurrencer même victorieusement, sauf dans le pur domaine de la pensée et du savoir. Cette accession rapide au statut de langue de culture et de culture écrite est due assez largement à la nécessité où était les clercs, qui détenaient avec la connaissance du latin le monopole de l'écriture, de passer par elle, par ces langues vernaculaires, pour évangéliser la masse des fidèles, les simples gens. Et les premiers monuments conservés de notre littérature ont été composés et écrits par souci de parler aux simples gens. Ce souci se manifeste donc aux racines de cette littérature, si élitiste qu'elle se veuille très vite d'autre part. La vraie question n'est donc pas de savoir pourquoi la littérature en langue vulgaire, à ses origines médiévales, s'adresse aux simples, mais de comprendre pourquoi très vite cette littérature en langue vulgaire ne s'adresse pas seulement aux simples, ne vise pas seulement à l'évangélisation ou à l'édification des simples, n'est pas cantonnée dans ce rôle utilitaire, mais sous certaines de ses formes, la poésie et le roman courtois, c'est-à-dire de court, sous certaines de ses formes, prétend s'adresser spécifiquement à un milieu restreint et raffiné. L'opposition n'est pas entre une littérature religieuse, celle qui vise à cette évangélisation ou à cette édification, l'opposition n'est pas entre une littérature religieuse et une littérature profane, parce que la notion même de littérature profane n'a guère de sens au Moyen-Âge, à moins de donner à profane la signification qui est la sienne en anglais, mais alors, précisément, il se définit au regard du religieux par contraste avec lui. la question est celle de la place des simples dans cette littérature globale, sous ses formes diverses, qui, au départ, n'utilisent leur langue que pour s'adresser à eux. Et c'est pourquoi le cours que j'avais commencé l'an dernier sous le titre « Parler aux simples gens, un art littéraire médiéval » se prolonge cette année avec un élargissement sous le titre « Parler aux simples, parler des simples, conscience de la simplicité dans l'art littéraire médiéval ». Ce titre peut paraître plus flou que celui de l'an dernier et trop englobant. On ne voit plus trop de quoi il s'agit, puis à ce moment-là, on peut parler de tout. C'est d'ailleurs un peu le cas. Ah, bon. Il l'est peut-être, trop flou et trop englobant, mais il l'est pour la raison que je viens de dire, et il est malgré tout en cohérence avec les conclusions du cours de l'an dernier. Et à la fin de ce cours, je faisais la constatation suivante que je reprends dans les termes mêmes que j'employais à ce moment-là pour faire la jonction. Tous les exemples que nous avons vus, que nous avons vus l'an dernier, là, et comme certains s'en souviennent peut-être, il s'agissait surtout de sermons au peuple. Là. Tous ces exemples nous confirment que parler aux simples gens, c'est souvent imiter la façon dont les simples gens sont supposés penser et s'exprimer. Parler aux simples gens, c'est les mettre en scène. Et c'est pourquoi il ne suffit pas, pour traiter le sujet, de prendre en considération des textes qui, comme les sermons, s'adressent explicitement aux simples et ont pour raison d'être de le faire. Il y a aussi une posture du simple qui définit une bonne part de l'art littéraire médiéval ou que l'on voit surgir parfois dans toutes sortes de manifestations de la littérature médiévale. Mais il y a aussi, dans l'art littéraire médiéval, une relation du simple et du subtil qui n'est pas celle qui nous est familière. Et j'annonçais alors que cet élargissement de la perspective serait celui du cours que je commence aujourd'hui. Mais dans ces propos que je viens de répéter, en me citant moi-même, ce qui est à la fois un signe de pauvreté dans les ressources intellectuelles et de vanité impardonnable, il y a, à vrai dire, dans ce propos, plusieurs points qui sont sensiblement différents. Il y a d'une part une constatation banale qui vaut pour le Moyen-Âge, mais qui est aussi de portée tout à fait générale. Là. Pour parler aux simples, on a tendance à parler comme les simples ou comme on s'imagine que les simples parlent. Et les textes qui s'adressent aux simples offrent donc un reflet soit de leur langage, de leur façon de s'exprimer et de raisonner, soit, plus encore, de la façon dont les auteurs de ce texte se représentent le langage et la pensée des simples. Je me rappelle dans ma prime jeunesse, du temps des frustrés de Claire Bretéché, on voyait comme ça quelqu'un qu'on n'appelait pas encore un bobo à l'époque, à la campagne, dire « j'ai parlé au jardinier, je vais parler de ce qui l'intéresse, les tomates, le temps qu'il fait, oh, c'est fou, la sagesse et la profondeur de cet homme simple, etc. » Vous voyez, bon, c'est ça. Bon. Et les textes créent ainsi une image et un personnage du simple qui sont comme réemployés dans des œuvres qui ne s'adressent pas à des simples. Nous en avons vu des exemples l'an dernier en passant, nous y reviendrons, par exemple, et même dans les sermons qui constituaient l'essentiel de notre matière. D'ailleurs, vous verrez que nous avons du mal à nous en séparer, mais en fait, quand on y revient, moi j'étais parvenu depuis 40 ans, sur ces sermons, c'est quand même très intéressant. Enfin, très intéressant. On s'intéresse à ce qu'on peut, on prend. Donc, par exemple, la façon dont les prédicateurs s'adressent aux simples suppose suppose une image du simple conforme à celle qui est ailleurs mise en scène par la littérature, comme si ils utilisaient un modèle littéraire pour trouver le ton, pour parler à leur auditoire. Le bon sens limité et sentencieux, le ton entendu, le laconisme têtu, l'insolence faraude, les jurements et les serments prêtés à temps et à contre-temps pour des broutilles. Eh bien, ce sont des choses que nous avons trouvées discrètement, mais nettement, dans les sermons de Maurice de Sully, l'évêque de Paris, à la fin du XIIe siècle, et lourdement dans le sermon d'Amiens que nous avions étudié à la fin de l'année, et d'ailleurs pas complètement, il y a un aspect sur lequel, pour lequel nous y reviendrons bientôt, et vous verrez que ce n'est pas seulement pour continuer à m'ébattre dans le sermon d'Amiens, mais que c'est vraiment quelque chose qui mérite réflexion. Et nous voyons que ce prédicateur démagogue, en somme, du sermon d'Amiens, enfin ce que j'appelais le sermon d'Amiens, donc un sermon prêché en français, prêché dans les vers 1280 pour une mission pour l'œuvre de la cathédrale d'Amiens dans toutes les paroisses, semble-t-il, ou dans un certain nombre de paroisses du diocèse d'Amiens. Et me semble-t-il par un dominicain et qui utilise toutes sortes de ficelles, n'est-ce pas, ou de cordes assez épaisses, mais assez efficaces. Mais tout cela, nous le trouvons aussi, et sur donc tout ça, le bon sens, je t'ai entendu, la connectivité, enfin tout ce que j'ai dit, nous le trouvons aussi. Et nous le trouvons surtout chez tous les simples que met en scène la littérature, dans les textes les plus fameux. C'est ce que nous trouvons chez le vilain gardien de taureau sauvage dans Le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes. Oh, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une aventure, hein, j'en ai jamais entendu parler. Ça regarde les chevaliers, moi, je ne suis pas un chevalier. Mais enfin, si vous continuez, vous trouverez une fontaine, qui que, etc. Chez le Bouvier et chez les Bergerots d'Aucassin et Nicolette, hein, vous pleurez pour un chien. Là, et moi, j'ai perdu mon bœuf et ma pauvre mère, sur son lit de paille, je n'ai pas de quoi la nourrir, etc. Ce ton géniard du pauvre. Chez la bergère, et plus encore quand ils entrent dans la danse, c'est le cas de le dire, parce qu'ils dansent souvent, chez les bergers des pastourelles, hein, qui font les malins devant le chevalier séducteur. Chez Robin et Marion, dans le jeu éponyme d'Adam de Lalle, qui est la mise en forme théâtrale d'une pastourelle, qui est leur... Robin et Marion, qui sont les héritiers des personnages pastourelles. Plus tard, chez les comparses à la fin du Moyen-Âge, chez les comparses des mystères, qui offrent un contrepoint comique et une détente au milieu de l'action tragique et sacrée. Et alors on voit apparaître ces personnages simples, ces bergers, ces artisans, etc., qui ont ces traits de caractère et de comportement. Chez les personnages des farces à la fin du Moyen-Âge, et c'est très visible, enfin, c'est quelque chose que nous pourrions développer, c'est très visible dans les farces de la fin du Moyen-Âge parce que les répliques des farces sont souvent organisées sur le schéma métrique des rondeaux et donc avec des refrains. Et la présence de ces refrains impose au personnage une sorte de ressassement buté. La conversation a l'air de se poursuivre, mais le mouvement du rondeau fait que le personnage ressort toujours le même vers et la même phrase. Et cela crée, par des procédés, c'est assez intéressant, par des procédés purement formels et métriques, un trait de caractère qui est ce trait de caractère du simple, hein, ou même, je sais pas, l'amoureux, donc il poursuit la conversation avec sa belle, et dit, sans rigoler, il faut nous mettre en ménage, n'est-ce pas, etc. Alors, il continue, il peut parler n'importe quoi, mais tous les quatre ou cinq vers, il dit, sans rigoler, il faut nous mettre en ménage, puisque le rondeau l'impose. Rigoler n'a pas tout à fait la connotation que ça a aujourd'hui. Donc, mon exemple est mauvais ou exigerait des explications. Le procédé s'accorde avec l'entêtement et la tendance à répéter une formule une fois qu'on l'a trouvée, qui sont des traits volontiers prêtés au caractère populaire. Le goût de la sentence, le goût du proverbe, puis une fois qu'on l'a trouvé, la conversation se poursuit en la répétant indéfiniment. C'est pour ça que les brèves de comptoir sont en fait interminables. Et d'autre part, on est à ça, du début, alors là, je passe à un aspect tout à fait différent, là, mais les deux voies vont converger. Du début à la fin du Moyen-Âge, la poésie recherche fréquemment des effets de contraste entre une poésie simple, réputée celle des simples ou d'origine simple, marquée des signes de l'archaïsme et de la naïveté, et une poésie sophistiquée, marquée des signes de l'élégance et de la modernité. Et on peut même dire que depuis du début à la fin du Moyen-Âge, le système lyrique, si je puis dire, est construit sur cette opposition. Alors, pas une nouveauté. Pour moi, ce n'est pas une nouveauté parce que c'était pratiquement le thème de ma leçon inaugurale dans la maison et du premier cours que j'ai fait, qui a donné un livre qui s'appelle « Le Moyen-Âge et ses chansons ou un passé en trompe-l'œil » 1976, ça ne date pas d'hier. Et je disais déjà ça, ce qui montre que la fameuse nouveauté des cours du Collège de France est bien mal illustrée dans mon cas. Mais dans cette opposition, ce qui, pour nous, est intéressant, c'est l'association archaïsme-naïveté, élégance-modernité. Il y a la force du langage des simples et de la poésie des simples, c'est qu'elle est vieille, qu'elle est ancienne, et il y a une valorisation de ce qui est ancien au Moyen-Âge. Et de sorte qu'il y a des modes littéraires, mais à côté de ces modes, et pour qu'elles soient sensibles, il faut qu'il y ait une tradition, et cette tradition, par le simple fait qu'elle est ancienne, eh bien, mérite d'être recueillie. Alors, elle est recueillie, elle peut être, selon les cas, moquée, ou au contraire, mise en valeur, mais on en a besoin. Et en contrepoint à la poésie courtoise, les milieux de cour eux-mêmes favorisent soit la résurgence de la vieille tradition des chansons de femmes, et cette résurgence de la vieille tradition des chansons de femmes, c'est quelque chose qu'on voit paraître aussi loin qu'on remonte dans le temps, dans notre connaissance de cette poésie, puisque, je l'ai assez répété au cours des années, où tout le monde le sait, c'est comme cela que nous connaissons les plus anciens témoins de la poésie lyrique en langue romane, par leur citation dans la poésie arabe, à cause de cet aspect simple et traditionnel. Donc, soit la résurgence de cette tradition qui est très ancienne, nous le savons, qui est la vieille tradition lyrique autour du bassin méditerranéen, soit la diffusion de chansons du type chansons de femmes qui sont présentées soit comme la collecte du répertoire des simples, ce que sont les harjas, soit comme la reproduction, leur imitation. Et c'est le cas avec les cantigas d'amigo galiciennes portugaises, qui sont certainement anciennes parce que la ressemblance justement avec ce qu'on a des harjas est vraiment frappante. Et qui sont certainement anciennes parce que même la chanson Altas Ondas n'est pas de Rimbaud de Vaqueiras, elle est tout de même probablement antérieure au Cantigas de Amigo au moment de la grande explosion du genre au milieu du XIIIe siècle. les chansons de toile françaises, et tout ça, c'est à la même époque que cette mode littéraire apparaît, entre la fin du premier tiers et le milieu du XIIIe siècle, les chansons de mal mariées, les chansons d'aube féminines, et les chansons d'aube sont essentiellement, alors les chansons de mal mariée sont la chanson, enfin, une jeune femme se plaint d'être mal mariée à un vilain, donc ça c'est la coloration courtoise, mais souvent tout à fait artificielle de la chanson, mais surtout à un vilain qui n'est pas capable de la satisfaire, d'où l'intérêt de trouver quelqu'un d'autre. Et les chansons d'aube, Le principe même d'un chanson d'aube, c'est un type lyrique à la fois très ancien et pratiquement universel, on en trouve entier, donc des chansons ne célèbrent pas, qui déplorent la séparation des amants à l'aube. Voilà. Donc la chanson d'aube s'est facilement insérée dans le cadre de la poésie courtoise dans notre civilisation médiévale, parce que comme les amours de la poésie courtoise ne sont pas aussi systématiquement qu'on l'a dit, mais sont souvent adultères ou clandestines, les amants sont effectivement obligés de se séparer au matin. Mais le noyau de la chanson d'aube, c'est une chanson de femme, parce que la femme, si je puis dire, est rivée où elle est, elle ne peut pas bouger. Et c'est au matin, c'est l'homme qui la quitte et qui s'en va. C'est pas elle qui s'en va. Donc la désolation est plus de son côté. Et effectivement, c'est fondamentalement une chanson féminine. Et quand on regarde même le répertoire médiéval, les chansons qui sont soit dialoguées, soit placées dans la bouche d'un homme, sont des chansons dont la coloration courtoise est très nette et qui entre sans difficulté dans le répertoire des troubadours ou quelquefois des trouvères. En revanche, les chansons qui sont des chansons féminines sont, elles ont peut-être été composées par des hommes, hein, ça ne change rien, mais ce sont des chansons conservées comme des chansons anonymes et qui ont cette tonalité d'une sorte de sensualité candide, d'un élan sensuel, mais comme peu conscient de lui-même, qui s'analyse peu lui-même et qui a donc une sorte d'innocence dans sa sensualité, et c'est le ton caractéristique de la chanson de femme dans ce lyrisme. Et pour les chansons de toile, j'en ai assez parlé, puis on en reparlera peut-être, et c'est le programme d'agrégation cette année, hein. On voit très bien qu'on les voit enchâssées, mises en scène pour définir une situation de naïveté ensemble. Donc, ces chansons sont supposées faire entendre, sinon la voix des simples, du moins la voix de personnages qui peuvent être simples de cœur, si je puis dire. Soit des simples socialement ou par le manque d'éducation, soit des simples de caractère, comme les femmes des chansons de femmes qui sont certes des dames et des reines, comme dit la vieille dame du roman de Guillaume de Dôle, mais qui sont des femmes peu éduquées et peu au fait des modes intellectuels, littéraires, de comportement, etc., et qui, à cet égard, entrent dans la mouvance de la simplicité. Et donc, ces chansons sont supposées faire entendre la voix des simples ou une voix simple, parce qu'elles sont de facture simple, parce qu'elles poursuivent une tradition poétique antérieure au lyrisme de cour, au lyrisme de la poésie courtoise et de la fine amour, et enfin, parce que l'expression féminine de l'amour, la voix qui dit ou chante, la voix féminine, pardon, qui dit ou chante l'amour sont supposés se caractériser par une absence de réflexivité, de conscience de soi de l'amoureuse, par un aveu direct, sans farce, sans détour, sans métaphore, naïf, en somme, de l'amour et du désir. Ce qui va avec la perception de la femme à l'époque. La femme est moins rationnelle que l'homme, pense-t-on, parce qu'elle a été créée à partir de la côte d'Adam, et pas à partir de son cerveau. Il y a moins de neurones, enfin, ils ne connaissent pas les neurones, mais enfin, il y en a moins dans la côte que dans le cerveau. Et elle incarne, aux yeux du Moyen-Âge, une forme de simplicité qui, d'une part, n'exclut ni l'astuce, ni la ruse, ni l'habileté, ni la forme de rouerie des simples, d'où par exemple les chansons de Mal marié, d'où beaucoup de Fabliau. Donc ça n'exclut pas cette ruse, tout au contraire, mais qui d'autre part favorise un aveu ingénu de l'affectivité et de la sensualité. Et vous voyez, le grand débat qui alimente tellement de poèmes lyriques, tellement de chansons, troubadours et trouvères, est-ce que je lui dis que je l'aime ? Oui, non. Si je lui dis pas, j'arriverai jamais à rien, elle ne le saura pas. Mais si je lui dis, alors ça va être affreux, etc. Ça pourrait encore plus se poser pour la voix féminine. Et on ne trouve pratiquement jamais la voix féminine dit candidement son amour et en souffre. Et les chansons de femmes offrent ainsi un vif contraste avec l'introspection permanente, l'analyse, la discussion avec soi-même ou avec un partenaire poétique, la sophistication de l'expression qui caractérise la poésie courtoise et l'espèce d'amplification narrative de la poésie courtoise, soit dans le roman d'amour, soit dans l'exploration de l'intériorité sous la forme du récit allégorique, dont le roman de la Rose sera longtemps le modèle. Le langage et le personnage du simple sont mis au service de ce contraste qui vise à la mise en place d'un système poétique mettant en valeur les deux types poétiques par leur justification et non pas la dévalorisation de l'un au profit de l'autre. Et c'est également un contraste, celui qui oppose la simplicité de la bergère aux manières et au langage du poète séducteur, qui donne son sel au genre de la pastourelle. Contraste ou dévalorisation du personnage simple, celui de la bergère. Alors on dira, on a dit toujours dévalorisation. Le poète séducteur abuse de la simplicité de la bergère. Il se moque d'elle en la flattant, en l'étourdissant de belles paroles pour parvenir à ses fins. Il se réjouit d'obtenir ses faveurs contre un colifichet grossier qui ne vaut rien. Il amplifie, il exagère la délicatesse de son langage pour faire ressortir la simplicité rustique de celui de la bergère. Il se moque des danses rustiques des bergers. Lorsque ces bergers s'offensent de ces avances indiscrètes à la bergère, il prend le large parce qu'il ne va tout de même pas se commettre avec des rustres. Ce ne sont pas des gens avec qui on se bat. Et le comte Thibaut IV de Champagne, roi de Navarre, racontant ce genre de mésaventure, il essaye de séduire la fille, les bergers arrivent, et à ce moment-là, il se sauve. Il se sauve et il dit « N'ai cure de tels gens, je ne me souviens pas de ces gens-là. » Mais nous avons déjà vu que la bergère et les bergers savent faire une arme de leur simplicité et du mur d'incompréhension réelle ou feinte qu'ils opposent à leur interlocuteur. Nous l'avons vu dans le jeu de Robin et de Marion, mais toujours avec ambiguïté. On ne peut pas savoir exactement si Marion fait exprès ou fait pas exprès de ne pas comprendre ce que lui dit le chevalier. En revanche, la défense, la déclaration d'amour, en somme, de Marion à Robin devant le chevalier et la réaction de Robin devant le chevalier est ce mélange, enfin, elle le dit avec audace, et lui, ce mélange de lâcheté, de courage, d'insolence faraude et de platitude qui a prêté au genre, mais au simple. Mais le chevalier est ridiculisé autant que plus parfois, et l'effet ultime est donc bien dans le contraste. Et on voit même les poèmes qui paraissent les plus grossièrement insultants pour la paysanne changer de registre et varier leur ton de façon que chacun en prenne pour son grade. Et on le voit dans le poème qui a été distribué, que je vais relire, c'est une porchère anonyme en Languedoc, dont le début n'est guère encourageant. Et je vous ai donné ce poème qui est très grossier au début, justement parce que c'est un mauvais poème, en fait. Du coup, il est incohérent. Et il est incohérent, et on voit que le poète utilise les différentes ressources qu'offre la situation, sans souci de les harmoniser entre elles et sans choisir entre elles. Mentre par una ribiera, j'aurais pu. Enfin, donc, il n'y a pas de PowerPoint aujourd'hui, mais ça n'en vaut pas la peine pour ça. Sol sanava de portante, la vie de Luen, Gaia porquera, un trapel de porc, Scardane, etc. Donc, tandis que le long d'une rivière, j'allais seul à mon plaisir, je vis de loin une joyeuse porchère gardant un troupeau de porcs. Aussitôt, en suivant un sentier à travers un guéret, j'allais vers elle. Son corps était sans grâce, sale, sombre et noir comme de la poix. Elle était grosse comme une barrique et elle avait chaque mamelle si grande qu'on aurait dit une anglaise. Moi, de la voir si peu appétissante, les bras m'en tombèrent. Elle restait là comme une niaise et je lui dis « Dame courtoise, belle créature bien apprise, dites-moi si vous êtes pucelle. » Et on a entre l'apparence d'une délicatesse ironique et la grossièreté de la question. Pendant ce temps, sous sa robe, elle gratte et frotte énergiquement son gros corps mal fait, sans le pan de sa tunique, on lui aurait vu toute la fente. Et elle me répondit ce faisant d'une voix grossière et beuglante, « Homme, que viens-tu m'ennuyer ?» Passe ton chemin de par Dieu. Mais la suite de la chanson, je ne vais pas tout lire. La suite de la chanson utilise, sans grand souci de cohérence avec cette entrée en matière, et sans grande clarté non plus, car certains passages sont obscurs. Et je dois dire que la traduction de Jean Audiot, les éludes, les éludes un petit peu, puis c'est un poème qui aurait besoin d'être réédité, comme ça on en a déjà une idée. La suite de la chanson utilise tout le registre de la confrontation entre le berger et la bergère, de sorte qu'on voit la bergère s'humaniser peu à peu, jusqu'à manifester une certaine dignité dans ses réponses au poète, à ce détail près qu'après l'avoir repoussé avec une hauteur qui ne manque pas de dignité, l'instant suivant, elle se donne à lui sous un hêtre et ensuite, en partant avec son jupon déchiré, elle s'étale dans le ruisseau. Et il y a même, vous le verrez, une certaine sentimentalité dans l'évocation de ses amours rustiques et des divertissements pastoraux. Et une sentimentalité dans cette évocation qu'on trouve dans d'autres poèmes, alors isolés, dans ce cas-là, la bergère est fidèle à elle-même d'un bout à l'autre, et des divertissements et des amours qui sont caractéristiques d'un certain type de pastourelle proche de la pastorale antique. Et par laquelle cette pastorale antique, le style Théocrite bucolique, si vous voulez, ressortira et deviendra un genre important, et en même temps d'ailleurs un genre politique, à la fin du Moyen-Âge. un genre politique. D'ailleurs, c'est pas, il y a eu un, il y a longtemps, c'était la thèse de Joël Blanchard, qui était un très beau travail. Et on voit bien pourquoi. C'est aussi une piste que nous pourrions suivre, parce que les bergers sont une sorte, à la fois la vox populi, c'est l'opinion, et c'est la voix des simples, c'est une voix simple, c'est la voix de ceux qui n'ont pas de préjugés au départ, ceux qui ne sont pas mêlés aux affaires, voilà, dont la vie n'est pas biaisée par le parti qu'ils ont embrassé, etc., ceux qui souffrent simplement des guerres, de l'opposition entre les grands, et qui les commentent. Et sous cette apparence d'objectivité tenant à leur état, ces poèmes, qui ne sont naturellement pas des poèmes de simples, mais des poèmes qui mettent en scène des simples, en profitent pour faire passer un message politique. Justement, comme les interlocuteurs sont supposés être parfaitement vierges de toute opinion politique préconçue, celle qu'on leur prête n'en a que plus de force. Elle paraît s'imposer. Mais pour en revenir à ce problème, où vous avez donc sous la forme la plus ridicule qui soit une sorte de concaténation de l'ensemble des thèmes du genre, on trouve là, évidemment très maladroitement, la même succession des situations typiques des pastourelles que dans le jeu de Robin et de Marion. Niaiserie, fin tout réel de Marion face au chevalier, proclamation ingénue mais ferme de son amour pour Robin, pique-nique, jeu, danse des bergers, etc. Quant à la capacité de la bergère à se débarrasser du séducteur et à lui clore le bec, justement parce qu'elle joue de son esprit supposé borné et de son langage simple, direct, ignorant de la métaphore, là, les deux, son esprit borné et son langage limité, opposent une barrière impénétrable aux propos sophistiqués et biaisés du séducteur. Là, elle se défend comme cela, par l'incompréhension. Eh bien, il ne faut pas oublier que la plus ancienne pastourelle conservée, mais dont le contenu laisse supposer qu'elle prend le contre-pied d'un genre qui existe déjà, celle du troubadour Marcabru, donc très tôt, vers 1130, hein, et en Languedoc, elle aussi, bien que le genre ait connu un succès infiniment plus grand en Languedoïle qu'en Languedoc, cette pastourelle met en scène, et bien dans l'esprit de son auteur paradoxal, mordant, moralisateur, ou plutôt manifestant une grande exigence morale et spirituelle, mais enfin pour tenir des propos souvent obscènes, ou pas là d'ailleurs, il met en scène une bergère qui rive son clou à son séducteur qui est un fat et qui repousse ses avances sucrées, à la fois flatteuses et méprisantes, et on dirait tout à fait. Alors, nous, là, notamment à cause des circonstances particulières de cette séance, où le PowerPoint n'est pas en place, où les photocopies, etc., il n'y en avait pas assez pour tout le monde, j'avais mal calculé. Vous aurez le texte la prochaine fois, mais ça n'empêche pas d'en penser en parler maintenant. Et vous verrez que, on dirait, plus de 5 siècles avant Molière, les propos que tient Don Juan à Charlotte. Dans la scène quand Don Juan a fait naufrage là, à la lagune, qui se retrouve avec les bergers, c'est une situation de pastorelle avec l'opposition des deux façons de parler. D'où me vient la belle, une rencontre si agréable? Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes? Vous voyez, monsieur, répond Charlotte. Et le séducteur flatte la bergère en utilisant un langage très au-dessus d'elle et en la traitant comme une dame. Et en même temps, il se moque d'elle, puisqu'il veut parvenir à ses fins. Et elle, alors Charlotte cesse vite d'être embarrassée, mais au début, elle répond ça, embarrassée. Et le poète, on ne peut pas dire le poète, nous verrons que c'est ça l'astuce de la chanson. C'est qu'il y a un jeu. J'ai rencontré l'autre jour près d'une haie, j'ai rencontré une bergère, etc. Mais le point de vue est celui, n'est pas celui du jeu, le point de vue de la chanson. Bon. Mais là, mais enfin, disons le jeu du poème, parle en ces termes à la bergère, et elle se défend en revendiquant son statut de vilaine. Fille de vilaine, et en faisant de la simplicité de sa naissance, de sa vie, de ses mœurs, de son langage, un rempart contre les intentions déshonnêtes qui se profilent derrière les attentions que lui porte. Vous ne l'avez pas, mais. Mais moi je l'ai, mais enfin c'est pas honnête d'utiliser cet avantage. Et elle se défend comme ça. Enfin, je vais même vous le chanter, mais la prochaine fois je vous montrerai, j'ose pas le chanter, mais je vous montrerai la partition, vous verrez pourquoi c'est important. Donc, l'autrière, Giosuna Sebessa, travail pastora mestissa, de gioia de San Massissa, e foi figlia di Villana, capegonelle, pelissa, veste, camisa, treslissa, sotfars. Et cosas de lana. L'autre jour, près d'une haie, je trouvais une bergère de pauvre condition, pleine de gaieté et d'esprit. Elle était fille de vilaine, vêtue d'une cape, d'une gonelle et d'une pelisse, avec une chemise de treillis, souliers et choses de laine. Je m'approchais d'elle par la plaine, et je lui dis, jeune fille, créature enchanteresse, ça me fait beaucoup de peine que le vent vous pique. Sire, dit la vilaine, grâce à Dieu à ma nourrice, ça m'est égal que le vent m'échevelle, car je suis joyeuse et saine. Une jeune fille, lui dis-je, créature charmante, je me suis détournée du chemin pour vous tenir compagnie, car une jeune vilaine telle que vous ne peut pas sans un aimable compagnon paître tant de bétail en un pareil endroit, seule comme vous l'êtes. Sire, dit-elle, qui que je sois, je sais reconnaître le bon sens de la folie, réservez plutôt vos bonnes manières et vos essais pour lier connaissance à ceux auxquels cela fait plaisir, parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences, etc. Et alors il continue en disant, mais jeune fille, vous êtes une jeune fille noble, vous êtes la fille d'un chevalier parce que vous êtes si belle, si distinguée, etc., que vous ne pouvez pas être une fille de vilain. Et non, ce que le compliment a d'insultant. Et elle répond, mais pas du tout, je suis fille de vilain et de vilaine, je suis très bien comme ça, etc. Nous verrons le détail. Et la versification donne l'impression d'une extrême simplicité. En fait, elle est un peu plus sophistiquée qu'elle en a l'air. Il y a un seul maître, le plus simple qui soit, l'octosyllabe. Il n'y a pas de variation métrique qui entraîne d'ailleurs des variations mélodiques comme dans beaucoup de chansons de troubadour. Il y a deux rimes par strophe en coblas, doblas, c'est-à-dire que les deux premières strophes ont les mêmes rimes, puis après les strophes 3 et 4 ont les mêmes rimes, etc. C'est un procédé ancien, très très utilisé. Et la seule le seul petit raffinement, mais qui est un raffinement vers la simplicité, c'est que le mot vilana, vilaine, paysanne, revient au quatrième vers de chaque strophe. Le quatrième vers de chaque strophe se termine sur le mot vilana. Et voyez, enfin, je vous relis la première strophe, vous entendrez. L'autrière, Giostuna, se bessa, trobei pastora, mestissa, de gioia, de sen, massissa. Donc les trois premiers vers riment. Efo filia de vilana, elle était fille de vilaine. Cape gonelle pelissa, veste camisa, treslissa. Sotslars et cosas de l'âne. Il y a, alors d'ailleurs, il y a des variations de longueur, mais enfin, trois vers AAA, B, AA, B. Donc, presque monorime avec ces deux rimes en A, mais qui sont proches, qui viennent. Et puis, il y a une mélodie, une mélodie très allègre, très simple aussi, et qui est plutôt d'apparence, qui est au début très simple, et qui est d'apparence très simple, qui est en fait assez difficile à chanter, passé les quatre premiers vers. C'est une mélodie en mineur, enfin, c'est de la musique modale, mais enfin, c'est assez difficile. Et donc, la forme du poème et la mélodie, la forme métrique et la mélodie, prennent le parti du langage simple de la bergère contre le langage sophistiqué du séducteur, alors même que l'emploi du « je » l'identifie pourtant au poète. Et donc, la subtilité, là, encore une fois, je suis désolé de vous dire cela un peu dans le vide, au début de la prochaine séance, moi, ce sont deux minutes à montrer le poème, enfin, voilà. Et la subtilité de la pièce, c'est que la forme métrique, la forme musicale et la leçon de la chanson sont comme l'émanation de l'interlocutrice du poète et ne reflètent pas son point de vue à lui, qui devrait être pourtant celui qui s'impose au lecteur, à l'auditeur, encore une fois, puisque c'est lui qui dit « je ». Mais il dit « je » pour recevoir une leçon et non pas pour s'imposer. Non. Donc, cette pastourelle de Marc Abreu, cette première pastourelle, suit la loi du genre. Elle ne s'en éloigne même pas en montrant le poète séducteur à la fin déconfit et ridiculisé, puisque c'est une situation qu'on retrouve assez souvent. Mais elle se distingue des autres en ce que la voix du poème n'est pas la voix du poète, mais celle de la bergère, dont la métrique et la mélodie reflètent la simplicité et qui s'impose à toute la chanson, y compris aux parties placées dans la bouche du poète. Alors, cette sorte de paradoxe poétique, ce n'est pas en réalité « je » que l'on entend, mais l'adversaire de « je ». C'est quelque chose qu'on trouve dans les pastourelles, mais c'est aussi un trait caractéristique de Marc Abreu. Et c'est pourquoi, à la fois, on a raison de dire que sa pastourelle témoigne du fait que le genre était déjà connu avant les premiers témoignages que nous en avons, et qu'il ne naît pas avec lui, mais en même temps que le poème est tout à fait caractéristique de sa manière. Au-dessus de la voix poétique dite à tort, courtoise. Une voix poétique qui est celle qu'on entend chez tous les poètes et contemporains contre lesquels il s'élève, n'est-ce pas ? Au-dessus de cette voix poétique dite à tort courtoise qui fait miroiter les basses séductions du désir et de la chair, ce que Marc Abreu, dans l'ensemble de sa production, appelle « amar », l'infinitif substantivé. Le poème fait retentir une autre voix, celle d'une morale qui célèbre un amour plus exigeant, qu'il appelle « amor », l'amour, parce que c'est, on le voit dans le reste de ses poèmes, ou ailleurs dans ses poèmes, c'est l'amour même qui est compatible avec l'amour auquel Dieu invite. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'il est question, sur un mode mineur, sur un ton humoristique et non pas sur un ton injurieux et violent comme dans beaucoup de ses autres poèmes, sa pastourelle procède de la même façon et donne la même leçon. Elle le fait par le personnage d'une simple qui pense, parle, chante comme une simple et impose sa poétique et sa musique même à celui qui veut s'y opposer. La passerelle de Marcabru fait donc entendre la voix des simples, à la fois en la tenant à distance et en la faisant sienne. Elle la tient à distance puisque cette voix n'est pas celle du « je » qui s'attribue le poème. Ni l'auteur impliqué, ce « je », ni le poète lui-même, Marcabru, ne sont des simples, malgré la vida de Marcabru qui dit qu'il était le fils d'une pauvre femme. Il ne feigne pas de l'être. Il n'affecte pas d'imiter, de pasticher ou d'emprunter le langage des simples, comme le fait de façon méprisante l'auteur de la Porchère que vous avez sous les yeux, comme le font, certes pour la bonne cause, mais avec condescendance, les sermons au peuple que nous y lisions l'an dernier. Marcabru refuse les effets faciles de ce procédé, mais il fait mieux pour la bergère et mieux pour les simples. Il leur prête sa voix. La leçon du poème s'exprime par la voix de la bergère qui envahit le poème par la métrique et par la mélodie. Mais ce jeu qui se fait rembarré et à juste titre par la bergère, au-delà de ce jeu, il y a le poète. Et le poète prête sa voix à la bergère de façon à ce qu'elle puisse dire sa pensée sans que cette pensée soit brouillée ou dévaluée par une façon de s'exprimer, par des tournures de langage, par le son de la voix qu'impliquent ces tournures de langage, des inflexions ou une prononciation socialement marquée. La bergère, et alors là, encore une fois, nous le verrons en deux minutes la prochaine fois, nous lirons où je peux vous lire, enfin, ce que je vous ai lu vous le montre déjà. La bergère répond du tac au tac, mais non pas avec ce ton, sur ce ton entendu et un peu niais dans la ruse, à la fois rusé et niais, qu'on trouve généralement dans ce genre de poème. Elle s'exprime avec exactitude et elle s'exprime comme le poète s'exprimerait à sa place. Il n'imite pas la façon de parler des inférieurs. Le simple ou la simple, en l'occurrence, domine le poème en tant que poème, métrique et poésie, mais ce qui pourrait la mettre en situation d'infériorité, une incapacité à manier avec assez d'habileté le langage, cela, ça n'apparaît pas. Et c'est cela l'originalité de la passerelle de Marcabru, qu'on a signalé, ça fait 150 ans qu'on la signale, cette originalité, mais elle n'est pas du tout dans le fait que le poète est rembarré, encore une fois, par la bergère, qu'elle ne lui cède pas et qu'il s'en va tout piteux. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans des centaines de pastourelles. Enfin, des centaines, j'exagère à peine. En langue d'Oïl, on en a peut-être 350 des pastourelles. Et là-dessus, j'exagère, il y en a un gros tiers qui se termine comme ça. Ce n'est pas cela. Mais c'est qu'il fait parler la bergère comme il parlerait lui-même, et donc que la victoire de la bergère est complète. Elle ne tient pas à une infériorité bien utilisée, je fais semblant de ne pas comprendre. C'est tout à fait autre chose. Mais le poète marque en même temps que c'est bien la pensée des simples qu'il reproduit et non pas la sienne, car il respecte le bon sens juste et court, la logique élémentaire mais imparable, la répugnance à l'abstraction et l'enracinement dans le concret d'une pensée qui n'en est pas moins forte pour cela, mais qui n'est pas abstraite. Il met ainsi en valeur le personnage du simple et aussi de la pensée du simple, de la démarche intellectuelle du simple. Il les prend au sérieux et il signale que si la voix qu'il fait entendre n'est pas la voix de la bergère telle qu'elle ne serait pas écoutée, ce n'est pas non plus sa propre voix à lui. Ce que la bergère a à dire, il le dit pour elle, car elle exprime ce qu'il approuve et à quoi il s'identifie. Et pour comprendre le sens et l'effet de ce procédé, en deux mots pour terminer, j'emprunte une comparaison tout à fait différente à une autre littérature, qui est la littérature américaine du sud des États-Unis. Lorsque Mark Twain, par exemple, ou Faulkner font parler des Noirs, ils transcrivent phonétiquement la prononciation, leur prononciation. Et le résultat, c'est que la lecture de ces passages exige une certaine accoutumance. Et dans le cas de Faulkner, c'est même franchement difficile, et parfois pour nous, enfin, ou en tout cas pour moi, plus que difficile, presque impossible. La distance qui sépare le monde des Blancs, auquel l'auteur appartient, même s'il prend ses distances avec lui, la distance qui sépare ce monde du monde des Noirs, est ainsi marquée dans le langage de la façon la plus forte possible, mais aussi la plus extérieure possible. Il est presque impossible au lecteur, qui doit s'y reprendre à trois fois pour comprendre ce que disent les Noirs, de ne pas s'identifier au monde des Blancs, de ne pas sentir son appartenance à ce monde. C'est un autre monde, ce monde où on parle avec cet accent-là, ou avec cette prononciation et cette reproduction phonétique, cette graphie de la prononciation. Mais d'autres font différemment. Par exemple, Carson McCullers, il y en a sûrement d'autres, ou Flannery O'Connor. Ces femmes, ce sont des femmes, elles procèdent différemment. Carson McCullers ne cherche pas à reproduire la prononciation des Noirs. Elle transcrit leurs propos dans l'orthographe et la graphie de l'américain standard. En revanche, elle reproduit leurs fautes de grammaire et la non-grammaticalité, la façon dont les Noirs s'expriment. Et ce parti qui est moins radical produit un effet infiniment plus saisissant, parce que le lecteur perçoit alors les Noirs comme des personnages exactement semblables aux autres, aux Blancs, mais des personnages que Marc stigmatise dans le monde où ils vivent, une langue agrammaticale. Et du coup, ils font de sympathie et de compassion. Il n'est pas bloqué, ce n'est pas, ils n'ont pas du tout une pensée particulièrement simple, etc. Non, simplement, ils sont bloqués de cette façon. Et l'auteur manifeste qu'elle n'appartient pas au monde des Noirs, qu'elle est de l'autre monde, que sa propre voix est celle des Blancs, mais que c'est, dans le cadre de son récit, la voix des Noirs qui dit sa pensée, ou une partie de sa pensée, parce que, évidemment, c'est plus compliqué que cela. Eh bien, mutatis mutandis, beaucoup mutata, beaucoup mutanda, mais enfin, pas tellement que ça, finalement, il me semble que c'est le procédé que l'on trouve dans cette pastourelle de Marc Abru, et que, à cet égard, elle est réellement, de même que c'est un poète prodigieux, un poète unique, c'est, contrairement aux apparences, c'est l'une des 400 pastourelles qu'on connaisse, c'est une pièce unique. Mais nous passerons à des choses plus originales la prochaine fois. Je vous remercie.